Bonjour et bienvenue sur RCF, il est 8h10. Ce matin, sujet délicat, nous nous intéressons au ressort de la justice française face à la menace terroriste. Avec une question, la peur de l'attentat ne nous fait-elle pas nous éloigner des principes mêmes sur lesquels nous avons fondé notre système judiciaire ? Peut-on concilier sécurité, prise en compte de la menace terroriste et respect de la justice ? Notre grande invitée ce matin est connue pour défendre les enfants de personnes parties rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Des enfants nés sur place, des enfants grandis sur place, mais aussi des enfants devenus majeurs là-bas. Marie Dauzé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate et vous venez de publier chez Plon un livre intitulé « Les victoires de Daesh ». Avant de parler de ces personnes que vous défendez et du sort que leur réserve la France, je voudrais qu'on fasse un peu mieux connaissance avec vous. Comment est-ce qu'on devient avocat dans des affaires de terrorisme ?
Oh, c'est souvent par le biais des familles qui luttent contre la radicalisation de leur enfant ou qui luttent contre l'emprise de Daesh sur leur enfant. Moi, dès 2012-2013, j'ai des familles qui sont venues à mon cabinet en me disant « mais aidez-nous, elle va partir. Notre gamine va partir, on s'en sort pas. On a prévenu les services de renseignement, mais ils peuvent rien faire pour nous, aidez-nous. » Donc tout ça vient d'abord de parents inquiets et de familles inquiètes. Et puis, petit à petit, notamment chez ces femmes dans les camps, une jeune femme parle à une autre jeune femme, de tante en tante, et puis de famille en famille, finalement, voilà comment j'en arrive à défendre toutes ces femmes et ces enfants.
Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres de combien de personnes parle-t-on quand on parle de ces Français, de ces Françaises, de ces enfants qui sont encore là-bas et qui étaient partis rejoindre les rangs de Daesh ?
Alors, il y a environ 70 hommes actuellement dans les prisons du Kurdistan syrien, du nord-est de la Syrie. Une centaine de femmes dans les camps avec 300 enfants français dont les deux tiers ont moins de 6 ans.
Quand vous dites prison et camp, comment vous faites la différence ?
Parce que les hommes sont séparés des femmes, que les femmes sont dans des prisons à ciel ouvert. Certains ont même appelé ça le Guantanamo pour enfants. Lorsqu'il parle du camp le plus violent de tous, c'est le camp d'Al-Hol. Donc les femmes sont dans des camps à ciel ouvert, sous des tentes, il fait moins 10 degrés actuellement, sous ces tentes. Et les hommes, eux, sont dans des prisons, donc séparés des femmes et des enfants. Dans des prisons, on a pu voir certaines images, des mouroirs, qui sont en réalité des mouroirs, avec ces combinaisons oranges qu'on connaît trop bien. Et effectivement, tous malades, tous complètement affaiblis, et certains ne pourront pas y échapper, ne pourront pas échapper à la mort.
Dans quelles conditions vivent les enfants sur place ? Est-ce que vous avez des nouvelles ?
J'ai des nouvelles chaque nuit, c'est catastrophique. Là, actuellement...
Comment ça, vous avez des nouvelles la nuit ?
Alors, c'est tout simple. Ces femmes n'ont pas le droit de téléphoner, n'ont pas le droit d'avoir un téléphone portable. Les Kurdes, s'ils découvrent un téléphone portable au cours d'une fouille, non seulement les confisquent, mais surtout les emmènent dans une prison qu'on appelle la prison noire, la prison du Kurdistan syrien noir, c'est-à-dire une prison souterraine, parfois même avec leurs enfants, et parfois sans leurs enfants, c'est-à-dire que les enfants sont laissés seuls dans les camps et en totale errance. Donc, j'ai des nouvelles de ces femmes chaque nuit parce que elles parviennent à déterrer les téléphones portables qu'elles cachent pour communiquer avec moi par le biais de WhatsApp. Il n'y a pas assez de réseau pour qu'on fasse autrement que par WhatsApp. Mais donc, elles me donnent des nouvelles et elles arrivent à donner quelques nouvelles aussi à leur famille. Là, c'est catastrophique, par exemple. J'ai prévenu le Quai d'Orsay avant-hier. On est dans le camp Roge à moins 10 degrés sous les tentes et dans le camp d'Al-Hol à moins 6 degrés. L'eau a gelé, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et puis surtout, le chauffage est extrêmement dangereux. J'ai une des femmes qui a été blessée au visage, brûlée au troisième degré parce que cette petite lampe a explosé dans cette tente. D'ailleurs, en présence de son enfant, elle lui a complètement brûlé et défiguré le visage. Donc certaines ont peur d'essayer de se réchauffer. Et les enfants sont transis de froid avec tous les risques d'infection pulmonaire que cela engendre. Donc c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est 50 degrés l'été, c'est moins 10 l'hiver. Il n'y a plus, MSF est parti, il manque de nourriture. 371 enfants sont morts dans le seul camp d'Al-Hol en 2019. 371
Marie Dauzé, c'est déjà qu'on soit bien clair. Ces femmes et leurs enfants dont vous parlez, ces femmes, ce sont des femmes, des Françaises, qui sont parties rejoindre le rang de Daesh.
Alors tout à fait. Vous avez... un départ, une histoire. Un départ, un profil. Je ne voudrais pas non plus qu'on décide de caricaturer toutes ces femmes sous le même prisme. N'oublions pas, certaines ont été emmenées par leurs parents lorsqu'elles étaient mineures et elles n'ont pas eu le choix de partir. D'autres sont parties alors qu'elles avaient 15-16 ans. Et que justement, les parents alertaient les autorités françaises et qu'on n'a pas réussi à les empêcher de partir. Cet âge, l'adolescence, où on est capable du pire. Il n'y a pas que des femmes qui sont parties à 30 ans, en sachant pertinemment ce qu'était Daesh, ce qu'était l'État islamique, pour finalement organiser le pire concernant la France. tous les profils ne sont pas comme celui-là. Donc, ces femmes sont parties.
Mais il y en a.
Mais il y en a, évidemment qu'il y en a. Mais celles-là, vous savez, elles ne vont pas demander à un avocat depuis 2 ans et demi d'être rapatriées en France. Celles-là, ce qu'elles veulent, les plus dangereuses, les plus radicalisées, ce qu'elles veulent, c'est rester dans ces camps parce qu'elles savent très bien que Daesh va les récupérer. Al-Baghdadi l'a demandé, son successeur aussi. Elles veulent rester et elles veulent transformer leur enfant en enfant soldat pour pouvoir effectivement se venger contre la France. Et nous, on leur répond, eh bien, restez ici alors, très bien. Vous voulez rester là? Restez là. Vous voulez faire de votre enfant un enfant soldat? Laissez-le ici, c'est parfait. Rendez-vous dans quelques années, place de la République. Ce que je veux dire, c'est que moi, les femmes que je défends, sont des femmes qui soient son parti mineur, soit ont été emmenées par leurs parents, soit ont mis un pied là-bas parce qu'elles étaient sous emprise et essayent de s'enfuir de l'État islamique depuis des années. En tout cas, ce sont des femmes qui demandent leur rapatriement depuis 2 ans et demi pour sauver leurs enfants. Les autres, on devrait les rapatrier en priorité parce que ce sont quelque part les plus dangereuses et que à les laisser là-bas, on prend le risque de la dispersion. C'est pas moi qui le dis.
Mais si on fait revenir ces femmes et même ces enfants, est-ce que la crainte, c'est qu'ils deviennent des bombes à retardement?
Mais ils deviendront immanquablement des bombes à retardement là-bas. Il y a bien plus de risques à les laisser là-bas, là où est né Daesh, là où les attentats ont été fomentés, qu'à les ramener ici, à les mettre en prison et à placer ses enfants dans des familles d'accueil. C'est la difficulté, c'est que on croit dans l'imaginaire collectif et parce qu'on a peur que plus le danger est loin, plus on va réchapper à ce danger. Mais là, en l'occurrence, c'est faux. Et encore une fois, c'est pas l'avocate qui vous le dit. Moi, je suis censée expliquer à quel point elles sont pas dangereuses. Ce sont les spécialistes du contre-terrorisme, et notamment les plus grands spécialistes anglo-saxons et américains qui ont écrit une lettre extraordinaire le 11 septembre 2019, et qui disent « Mais ne commettez pas les mêmes erreurs que nous avec Al-Qaïda. Rapatriez tout le monde. Rapatriez tout le monde. La menace est là-bas. Ces femmes vont s'évader, se disperser et rejoindre les rangs de Daesh. Et ça, ce sera pas l'œuvre de Daesh, ce sera l'œuvre de la France qui les a pas rapatriées à temps. Parce qu'elles sont dangereuses, il faut pouvoir les maîtriser. Et on pourra pas les maîtriser autrement qu'en les rapatriant. Ça, c'est une évidence.
Alors, le gouvernement français, pour le moment, reste sur cette ligne de ne pas les rapatrier. Et en même temps, on a vu, il y a quelques semaines, la garde des Sceaux dans Libération dire « on est prêt, on va peut-être pouvoir les faire revenir ».
Mais il n'y a pas que quelques semaines, c'était en janvier 2020, il y a aussi en janvier 2019, que Mme Belloubet et le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, ont considéré qu'il fallait rapatrier tout le monde. Je rappelle quand même les termes d'Édouard Philippe en janvier 2019. Nous préférons la maîtrise à la dispersion. Nous ne voulons pas qu'ils puissent fomenter des attentats contre d'autres pays, y compris contre la France. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix du rapatriement. Madame Belloubet a dit la même chose. Et Monsieur Castaner ne dit pas autre chose quand il dit « ils sont d'abord français avant d'être djihadistes ». Pourquoi ça s'est arrêté en janvier 2019? Tout était prêt. Moi je l'ai, le plan de rapatriement, mais on l'a tous. Tout était prêt. On a le numéro d'avion américain qui était prévu, les dates de naissance des uns et des autres, leur localisation dans les camps.
Alors pourquoi ça a bloqué ?
Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une fuite dans un grand média, pour ne pas le citer, BFM TV, qui fait que ça a été malheureusement empêché pour des raisons de sécurité.
Donc
ça a été reporté. Une fuite volontaire, j'en sais rien. Demandez à vos collègues. Moi, je trouve que c'est regrettable, mais c'est comme ça. Donc là, on est effectivement en janvier 2019. Tout est prêt et ça s'arrête parce que ça fuite dans la presse. Ça s'arrête, mais c'est reporté. Sauf que deuxième étape, sondage. Sondage qui dit 2/3 des Français sont contre. Et à partir de là, on ne prend pas le risque politique d'être impopulaire et on attend, on tergiverse, on se dit on ne peut pas comme ça aller frontalement contre l'opinion publique et la situation se dégrade. Se dégrade pourquoi ? Parce que les troupes américaines s'en vont, parce que l'offensive turque arrive et que finalement maintenant c'est catastrophique. On a en janvier 2019 expliqué que l'instabilité de la zone nécessitait le rapatriement de tout le monde. Et aujourd'hui, un an plus tard, c'est encore pire, sauf qu'on est coincé, pris à notre propre piège.
De quoi est-ce qu'on a peur en refusant de rapatrier ses enfants ?
On a peur de l'opinion publique, et puis on a peur peut-être de revenir sur la parole assénée, qui est une parole... Monsieur Le Drian ne croit pas une seconde dans ce qu'il dit. Mais voilà, parce qu'il est intelligent et parce qu'il sait pertinemment que d'un point de vue sécuritaire, sur un registre sécuritaire, il est impératif de les rapatrier. Voilà. Donc je pense qu'on est dans la défiance d'une opinion publique et que plus les élections présidentielles arrivent, plus c'est compliqué de rapatrier tout le monde. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que être un homme politique responsable, c'est prendre une belle distance avec une opinion publique. Et puis enfin, ces enfants sont coupables de quoi ? Qu'ont-ils fait ? Comment notre pays en est arrivé à sacrifier des gamins ? 300 enfants sont en train de mourir dans ces camps et nous les abandonnons. Ils sont coupables de quoi ?
Dans votre livre, Vous racontez aussi que tous ceux qui reviennent de Syrie, et là je ne parle pas des enfants mais des adultes, ne méritent pas forcément d'aller en prison.
Alors c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut judiciariser tout le monde. Je dis simplement.
Judiciariser, ça veut dire
quoi ? Ça veut dire il faut que tout le monde soit pris en charge judiciairement. Voilà. Et je ne m'offusque pas du fait que tout le monde fasse un séjour en prison. Voilà. Et qu'on, à l'intérieur de la prison, on évalue le risque, on évalue la radicalisation, on évalue le profil psychologique.
On sait
je
faire
n'ai
ça.
Aucune difficulté à considérer que, en arrivant de Syrie, il est normal que les gens soient placés
et
en détention provisoire.
Et on sait faire évaluer.
On le sait enfin, j'allais dire. Parce qu'on ne l'a pas su pendant des années. Et que les programmes de déradicalisation, de désengagement, ça a été n'importe quoi jusqu'en 2017 à peu près. Que depuis 2017, c'est-à-dire depuis deux ans et demi, l'administration pénitentiaire a pris le problème à bras-le-corps. Et force est de constater quand même qu'on a mis en place une politique de désengagement en prison qui commence à être solide. Entre 4 mois dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation, psychiatres, psychologues, imams, éducateurs, professionnels, puis quartier de prise en charge de la radicalisation ou quartier d'isolement ou détention ordinaire, mais avec tout de même un regard assez appuyé sur le détenu. Il y a vraiment quelque chose de prégnant. Moi, j'y vais régulièrement. Hein. Je suis 3-4 fois par semaine en détention. D'ailleurs, j'y vais juste après votre émission, donc je sais de quoi je parle. Mais ça n'a pas été le cas pendant des années. Et on avait raison d'avoir peur d'une prise en charge qui n'en était pas une. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut effectivement, et j'ai aucun problème avec ça, considérer qu'il y a peut-être lieu de passer en détention provisoire tout le monde ou 99% des personnes qui rentrent de Syrie pour s'assurer du risque. Mais attention, la justice antiterroriste ne doit pas être ou ne doit pas avoir pour seul but et pour seul dessein de neutraliser. Elle doit rester dans sa finalité qui est celle de juger. Et juger, c'est individualiser.
Pas de justice d'exception, c'est
mais
ça.
Mais non, mais parce que si vous voulez, je le raconte dans mon livre, je raconte les 3-4 histoires les plus scandaleuses que j'ai pu traverser depuis des années. Ces gamins, par exemple, ces mineurs, qui n'ont pas eu le choix d'être emmenés en Syrie, qui sont partis à l'âge de 12 ans parce que la mère complètement dingue les a emmenés là-bas, qui ont réussi à fuir avec un bébé dans les bras, et qu'on met 7 mois, 8 mois en détention provisoire, alors que c'était pas leur choix. Et je parle d'une jeune femme. C'est pas juste. C'est pas juste et on va finir par fabriquer de la défiance si on continue comme ça. Mais certains magistrats l'entendent, hein, très sincèrement. Certains magistrats instructeurs antiterroristes avec lesquels je discute comprennent qu'il faut individualiser. On ne peut pas dire pas de risque. Le risque zéro et à partir de là, on traite tout le monde comme le plus grand des terroristes. Parce que c'est comme ça que justement, à force de dire tu es un ennemi, on va finir par le fabriquer. Donc la justice antiterroriste française doit rester une justice qui a une dose d'humanisme, sinon on n'y arrivera pas.
Dans votre livre, on a le sentiment que cette justice antiterroriste, elle est tétanisée par l'attentat.
Bien sûr qu'elle est tétanisée, mais je le comprends. Chacun a été sidéré, les magistrats aussi, et ils ont le droit. Ce que je veux dire, c'est qu'après 2015, c'était compliqué pour les magistrats de se dire, bon ben, lui, véritablement, toutes les expertises expliquent qu'il n'y a pas de problème de radicalisation, qu'on peut vraiment lui faire confiance, faisons-lui confiance, c'est compliqué. Moi, j'ai eu un magistrat qui m'a expliqué, qui m'a dit, mais attendez, maître, le risque, je l'ai pris une fois, ça s'est pas bien passé. Mais est-ce que vous imaginez ce qu'est vivre avec cela ? Et je l'entends. Mais juger, c'est malheureusement prendre un risque. Ou heureusement prendre un risque.
Les repentis, ça existe en matière de terrorisme ?
Bien sûr que ça existe. Sauf qu'il ne faut pas que les magistrats soient omnibulés par ce qu'on appelle la taquilla. C'est-à-dire l'autorisation de tricher pour pouvoir finalement aller jusqu'au bout de sa religion. Je donne une définition très aléatoire, mais bon. Mais bien sûr que ça existe. Et puis n'oublions pas que ceux qui sont partis ne sont pas tous partis par idéologie. Daesh, c'est aussi une secte. C'est aussi une secte qui a réussi à faire venir des jeunes gens qui n'étaient absolument pas dans un dessein purement religieux extrémiste. Donc cela, effectivement, c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux. Et il faut, à un moment donné, pouvoir leur faire confiance, parce que sinon ils vont être récupérés, effectivement, par une défiance qu'ils n'avaient pas au moment de leur interpellation.
Marie Dosé, votre livre s'appelle « Les victoires de Daesh », les pièges de Daesh, nous sommes tombés dedans.
Je pense que Daesh se réjouit, par exemple, du sacrifice que nous faisons sur ces 300 enfants. Et je pense qu'il n'attendait pas tant de la France. Les victoires de Daesh, ce sont nos renoncements aussi. Le renoncement à nos valeurs. Et lorsqu'on sacrifie 300 gamins, c'est effectivement une victoire de Daesh parce que nous avons renoncé à nos valeurs.
Aujourd'hui, il est trop tard ?
J'espère pas. J'espère pas. Je reste en contact avec ces femmes. J'en défends une quarantaine. Il y a une centaine d'enfants qui sont concernés par ma défense au sein de mon cabinet. Je n'espère pas, mais on ne peut pas éternellement expliquer à une femme « Vous avez raison de choisir les valeurs républicaines, vous avez raison de lâcher Daesh, vous avez raison de vouloir être rapatriée en France. » Et en même temps lui dire « Vous savez, la France, elle est prête à ce que votre enfant meure plutôt que de vous voir revenir. » C'est quoi là ? Quelle leçon lui donne là ? Et là, je peux vous assurer qu'on est en train de fabriquer la défiance et donc du terrorisme.
Marie Dosé, dernière question, comment vous réussissez à ne pas avoir des terroristes partout ?
Parce que je les connais, parce que je les défends. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire il n'y a pas de terrorisme en herbe et aucun de ceux que je défends n'est dangereux. C'est pas ça. Je vous dis juste que je sais qu'il y a un travail possible avec ces gens-là et que moi, je suis dans l'action. Je suis auxiliaire de justice aussi, ou en tout cas, je ne suis pas une avocate qui va vous expliquer que mon but, c'est faire le procès de la procédure et dire que la France est injuste. Il y a un travail à faire avec eux. C'est notre histoire qu'il faut juger. C'est pas notre histoire qu'il faut défendre, c'est notre histoire qu'il faut juger. Les avocats ont une place là-dedans. Nous avons un rapport à construire avec eux parce que tout le monde doit aussi les sauver de ce qu'ils sont.
Merci beaucoup, Marie Dosé. Votre livre s'appelle Les victoires de Daesh. C'est sous-titré Quand nos peurs fabriquent du terrorisme. Et c'est publié chez Plomb. Merci beaucoup d'avoir été notre grande invitée.
Merci à vous.